On vous immerge dans les profondeurs pour ce numéro de France Bleu Soir. Bienvenue à vous pour la découverte d'un film à suspense très spectaculaire, Le Chant du Loup. En salle depuis aujourd'hui, nous recevrons jusqu'à 20h Mathieu Kassovitz, l'un de ses acteurs principaux. Vous le retrouverez après le journal de Frédéric Dorel. Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
Il y aura un quatrième procès dans l'affaire Fiona.
La cour de cassation annule les condamnations de la mère Cécile Bourgeon qui va retrouver la liberté pour son ancien compagnon et papa de Fiona. C'est le pire scénario. L'affaire Benalla passe encore un nouveau cap. La commission du Sénat qui enquête depuis 6 mois conclut à des dysfonctionnements au sein de l'Élysée. Dysfonctionnements qui sont allés jusqu'à mettre en péril, dit-elle, la sécurité du président et qui posent des questions également sur les missions de l'ancien collaborateur.
Une amende record pour la fraude fiscale de la banque UBS.
3,7 milliards d'euros. La justice française sanctionne à la fois le blanchiment mais aussi le démarchage qu'effectuaient les Suisses auprès de leurs clients pour échapper au fisc.
La mort subite de l'adulte, près de 50 000 personnes meurent de ces attaques cardiaques chaque année en France.
Et nous ne savons pas toujours quoi faire pour remédier à ce problème des premiers secours. Une loi est en discussion en ce moment. Nous serons avec son rapporteur, le député Jean-Charles Collaroy. Pour ceux qui sont au bord de l'Atlantique, de la Manche ou de la mer du Nord, bonne nouvelle, c'est grande marée. Demain, nous suivrons deux connaisseurs. La sortie en salle de Grâce à Dieu, le film de François Ozon. Les premiers spectateurs à Amiens nous ont confié leurs impressions. Et puis on reste au cinéma avec votre invité Arnold.
Oui absolument, parce qu'il y a Grâce à Dieu, mais il y a également Le Chant du Loup avec Mathieu Kassovitz qui est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien, ça va?
Très bien, et vous-même?
Très bien, oui, impeccablement. Beau film, très spectaculaire, je le disais. On va en découvrir tous les détails, puis on va s'intéresser un peu à vous aussi, jusqu'à 20h.
Avec plaisir.
Tout de suite le journal.
France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Un quatrième procès aura donc lieu dans l'affaire Fiona. C'est un procès en appel.
Et Cécile Bourgeon va être libérée. La cour de cassation annule sa condamnation à 20 ans de réclusion pour la mort de sa fille Fiona, cet enfant de 4 ans dont on n'a toujours pas retrouvé le corps.
Alors pourquoi un nouveau procès? Parce que le précédent a accumulé les erreurs de procédure. Il y en a 4 au total.
Résultat, il faut tout refaire. Le père de Fiona qui vit avec la petite sœur à Clermont-Ferrand est effondré.
C'est sûr que je suis en colère. C'est un coup à péter les plombs, ça. Mais oui, je retournerai au prochain procès, c'est sûr. Je le ferai et on verra ce que ça donne. Après, elle comparaîtra libre. Donc, je pense que ça a une incidence sur le jury, forcément. Moi, je suis pas à l'abri que demain, si ça lui prend par la tête, de venir sur Clermont, en fait. Venir à Clermont ou même se pointer devant l'école à ma fille. Et là, on fait comment, là?
Vous avez peur pour votre fille?
Moi, j'ai peur pour toute ma famille, en fait. Pas pour moi, mais ma famille, ouais, j'ai peur. Moi, je sais pas ce qu'elle a dans la tête. Enfin, on l'a vu au procès, quelqu'un qui est froid comme ça. Je pense que la population va très mal le prendre de savoir que il y a une assassin d'enfant qui se promène juste à côté de chez eux. Et de toute façon, dans toute la France, ça sera pareil. Je pense qu'il faut pas qu'elle sorte.
Nicolas Chafoulet, le père de Fiona, avec Olivier Vidal, France Bleu Pays d'Auvergne.
Qui va jouer au foot se fait cambrioler. C'est ce qui est arrivé hier soir à 3 joueurs de l'Olympique Lyonnais.
Lucas Touzard, papa Cheikh Diop et même fils de paille pour qui c'est d'ailleurs la deuxième fois que ça arrive.
Le pic de la grippe est sans doute derrière nous.
Le nombre de malades qui se sont présentés aux urgences est en baisse par rapport à la semaine dernière. En revanche, le nombre de morts augmente et ça c'est quand même normal, hein, 2800 pour l'instant.
On passe au deuxième gros titre de cette journée chargée en actualité, l'affaire Benalla frise l'affaire d'État.
Oui, on était parti d'un collaborateur de l'Élysée qui agresse un manifestant le 1er mai. On arrive aujourd'hui à une commission d'enquête qui met en cause le fonctionnement de l'Élysée, Mélodie Pépin.
Oui, Benalla, c'est la partie émergée de l'iceberg, selon les mots du président de la commission d'enquête. L'Élysée a couvert son poulain. Selon le rapport du Sénat, il y a eu des omissions, des contradictions. Les 3 hauts cadres du palais interrogés auraient menti. Le Sénat part donc en guerre contre l'Élysée qui riposte et dénonce des contre-vérités sans préciser encore lesquelles.
Alors, un rapport accablant de 120 pages, 6 mois d'enquête, hein, 34 auditions. Quelles sont les accusations concrètement?
Faux témoignages, dysfonctionnement majeur de l'État, sécurité du président affectée, collusion, les mots sont forts et tout ça découle d'un seul homme à la base, Alexandre Benalla, dont on ne connaît toujours pas bien le rôle à l'Élysée. Ce collaborateur collaborateur officieux qui a menti sous serment, selon la commission, qui réclame d'ailleurs des poursuites, des mensonges sur son port d'armes, ses passeports diplomatiques, ses contrats russes aussi, des missions de protection négociées alors qu'il était encore à l'Elysée et qui lui ont rapporté beaucoup.
Et on peut ajouter maintenant dissimulation de preuves dans cette longue liste.
Oui, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire la semaine dernière, mais on l'apprend aujourd'hui. Une enquête pour savoir pourquoi on n'a jamais retrouvé son coffre-fort chez lui, pour savoir s'il a bel et bien effacé des messages sur son téléphone. C'est le cinquième front judiciaire dans cette affaire tentaculaire qu'il a mené en prison depuis hier, cette fois pour violation de son contrôle judiciaire.
Merci Mélodie Pépin. On attend maintenant les explications de l'Élysée sur ces affaires, Alexandre Benalla, qui ne font pas très nouveau monde.
Sans surprise, les négociations ont échoué entre partenaires sociaux.
Pas d'accord sur le bonus-malus pour limiter les contrats courts. Le patronat refuse l'idée, mais les syndicats pointent la responsabilité de l'État qui, selon eux, les a menés dans une voie sans issue. Avec le MEDEF, ils demandent une réunion tripartite État-syndicat-patronat.
On est à la moitié du grand débat. C'est aujourd'hui que les maires ruraux remettent leur cahier de doléances.
10 000 mairies ont participé. C'est maintenant la Bibliothèque nationale, la BNF, qui doit numériser tout ça. Et c'est un consortium spécialisé qui analysera ensuite les données.
Attention, on risque de vous donner le tournis avec l'amende la plus chère jamais prononcée en France. La banque suisse UBS est condamnée à payer 3,7 milliards d'euros à la France.
Pour avoir fraudé le fisc et avoir incité en plus ses clients à faire de même. Évidemment, la première banque privée au monde fait appel, ce qui ne surprend pas le sénateur communiste Éric Bocquet.
La bataille juridique n'est pas terminée. On connaît la puissance de feu de ces banques, la qualité de ces avocats. Ils sont nombreux. Ils étaient pratiquement plus nombreux que le public dans la salle d'audience. Mais oui, il faut s'attendre à une bataille juridique très ferme. Mais en tout cas, c'est un point marqué par la République française. C'est un signal fort qui est donné là. Et à mon avis, ça ne suffira pas à juguler le phénomène global de l'évasion fiscale. Il y a un travail énorme à faire là-dessus, hormis le fait que ça nuit aux recettes fiscales de l'État, au budget que cela met en difficulté, en tout cas ça y contribue. Ça a aussi l'effet très négatif de fragiliser ce qu'on appelle le principe du consentement à l'impôt dans cette République.
Éric Bocquet, sénateur communiste et rapporteur d'une commission d'enquête sur la fraude fiscale. La sanction est assortie de 800 millions de dommages et intérêts, 800 millions d'euros qui vont aussi faire du bien aux finances de la France.
Ah oui, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Il est 19h07. Pour la suite du journal de Frédéric Dorel, on s'intéressera à ces 40 000 Français qui meurent terrassés par une crise cardiaque chaque année. On parle de mort subite de l'adulte et une loi est en discussion en ce moment pour que les Français soient mieux informés au premier secours. Nous serons avec le député qui en est à l'origine d'ici une minute. Grâce à Dieu, le film de François Ozon est projeté en salle depuis aujourd'hui. Comment réagissent les premiers spectateurs ? Nous irons à Amiens pour répondre à cette question. Mais d'abord, Frédéric, si on allait à la pêche.
Alors, à la pêche à pied, hein, parce que demain, c'est grande marée du Touquet à Noirmoutier, coefficient 115. Et comme il fait beau et que c'est les vacances, il risque d'y avoir affluence.
Alors voilà les conseils de deux habitués de Bretons rencontrés à Plougastel d'Alouas dans le Finistère.
Ils viennent avec, dans leur seau, des couillou couézeg qu'on peut traduire par des testicules de cheval.
Ouais, c'est sympa. Si, pour pêcher la dorade en général, ouais. Ou le bar éventuellement. Ah, ben chacun a ses spécialités. Nous, on est au couillou. Il y en a qui sont au couteau. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde parce qu'en haut, c'est la palourde. Ouais. Et sur le côté, il y en a qui vont au crabe et au pétanque. Là.
Voilà quelqu'un qui a encore un panier bien rempli.
Les langues de belle-mère, on
a ça se mange.
Il y en a qui mangent ça. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Et ça, c'est des tout petites. Hein.
On n'en meurt pas ?
Non.
Ah, non.
Ah, je vais essayer, là.
Pourquoi on appelle ça des langues de belle-mère ?
Oh, je suppose parce que la langue est rouge.
Qui est un peu dure aussi.
Comment on accompagne ça, alors, la langue de belle-mère ?
Alors, soit c'est une cuisson très rapide, quelques secondes au toaster avec un peu de beurre, par exemple. Bon, à la moulinette. Et là, on met des ingrédients, puis on les cuit longtemps.
Avec un petit accompagnement ?
Bah, ça, c'est suivant les goûts.
Non, des patates.
Des patates au beurre.
Et ça vous met en appétit, alors ?
Ah, bah, tout à fait, oui. Ah oui, je pense que je vais les faire tout à l'heure.
Allez, coquillages et patates ce soir pour les pêcheurs à pied de Port-Gouen dans le Finistère.
Un millier de gilets jaunes sont allés manifester à Genève aujourd'hui.
Face au siège de l'ONU, ils protestent contre les violences policières et les LBD, ces lanceurs de balles de défense qui ont éborgné une quinzaine des leurs. et qui sont fabriqués, eh bien, en Suisse, figurez-vous.
Et puis, malheureusement, encore des tags antisémites. Cette fois, c'est au cimetière de Champagne, au Mont d'Or, près de Lyon.
Deux croix gammées dessinées à l'envers sur la stèle avec l'inscription Shoah Blabla. Emmanuel Macron est ce soir au dîner du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France.
19h10, une page santé. Chaque année, près de 50 000 personnes meurent en France d'un arrêt cardiaque brutal. On parle de mort subite de l'adulte. Une future loi est en discussion en ce moment pour faire baisser ce chiffre.
Et les députés l'ont voté hier à l'unanimité. Elle va passer maintenant devant les sénateurs. Jean-Charles Collaroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de l'Isère et c'est vous qui portez ce texte. Parce qu'en France, on n'est pas assez formé aux gestes qui sauvent ?
Oui, effectivement, on est en retard par rapport à d'autres pays européens en particulier, puisque seulement 30% des Français sont formés aux gestes qui sauvent, alors que dans certains pays nordiques ou la Grande-Bretagne, ce sont 80% des citoyens qui sont formés. Et c'est important, c'est un sujet important, puisque en France, le taux de survie est uniquement de 7%. Et on pourrait atteindre, en formant nos citoyens au premier secours, on pourrait atteindre un taux de survie de 15% et sauver ainsi 3000 vies chaque année.
Oui, c'est ça. Les pays anglo-saxons et scandinaves présentent des taux de survie 10 fois plus importants qu'en France. Alors, on parle de quoi, gestes qui sauvent, massage cardiaque, usage du défibrillateur ?
Bien sûr. En fait, il est important de dire que les gestes qui sauvent, c'est simple. Ça s'apprend en 2 heures. Alerter, masser, défibriller, prévenir les secours, pratiquer le massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, c'est simple. On est en train de changer de raisonnement sur les premiers secours. Avant, on pensait qu'il fallait très bien faire les gestes. Et aujourd'hui, il y a un changement. On dit qu'il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Et donc, ça s'apprend rapidement. Il faut aller se former. On n'est que 30%. Si on peut atteindre les 80% de la population formée, eh bien, ce sont des milliers de vies qui pourraient être sauvées chaque année.
Et alors, vous voulez instaurer aussi un statut du citoyen sauveteur. Pourquoi faire ?
Ça, c'est un sujet important parce que il est important de protéger le bénévole, le citoyen qui intervient sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Mmh. Les secours en France, les secours professionnels, le SAMU, les pompiers, mettent 10 à 13 minutes à arriver sur le lieu d'une victime d'un accident ou d'une victime qui fait un arrêt cardiaque. Et ce sont donc les premiers témoins, les voisins, les proches, qui vont intervenir, qui vont faire les premiers secours pendant ces minutes précieuses. Chaque minute qui passe, c'est 10% de chances de survie en moins. Et il est important donc de protéger ces bénévoles qui vont faire les premiers secours et les assurer qu'il n'y a aucun risque.
Les protéger de quoi ?
Il n'y a aucun risque à mal faire. Mmh. Les protéger parce que si jamais les gestes sont mal faits, il pourrait y avoir des recours. Ah. Et là, ce statut de citoyen sauveteur, il vient les protéger contre ces recours parce qu'il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Et puis, il vient les assurer aussi parce que si jamais en allant faire ces gestes, il leur arrive quelque chose, au moins ils seront couverts.
Très bien. Et puis, votre texte préconise d'enseigner aux entraîneurs sportifs les signes avant-coureurs de l'attaque cardiaque parce que ça arrive souvent sur les terrains de sport.
Oui, effectivement, notre proposition de loi rajoute des étapes de sensibilisation au premier secours à différents moments de la vie, à l'entrée au collège, au moment du permis de conduire, avant le départ à la retraite, et aussi pour tous les arbitres, juges arbitres et entraîneurs sportifs, parce qu'effectivement, sur les 40 à 50 000 morts chaque année par arrêt cardiaque, 800 à 1000 se font sur des terrains de sport. Mmh. Et il faut que ceux qui sont autour, les arbitres, les juges arbitres, les entraîneurs, puissent intervenir.
Et quelquefois, les victimes sont même très jeunes. Merci Jean-Charles Collaroy, député de l'Isère et rapporteur de cette proposition de loi. Merci de vos explications sur France Bleu.
Merci.
Un tour au cinéma avant de recevoir Mathieu Kassovitz. Le film Grâce à Dieu commence à être diffusé partout en France.
Il raconte l'affaire du père Prénat, ce prêtre lyonnais accusé de pédophilie, vu du côté des victimes. Cette fois, un film qui arrive avant le procès et a failli être reporté. Claudia Calmel, à Amiens, a demandé aux premiers spectateurs de lui dire ce qu'ils en pensaient.
Ça m'a profondément émue, vraiment profondément. Et j'espère que ça va sortir. C'est comme dans le film, la parole est bloquée. Et puis il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui parlent pour que les autres osent parler après.
C'est joué très justement. J'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment sensationnels. On a l'impression d'être dans la vraie vie, c'est pas du cinéma.
Je pense que c'est un très beau film qu'il faudrait faire regarder à beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Parce que je crois qu'on n'a pas encore conscience de toute cette hypocrisie et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis très émue par ce que je viens de voir et d'entendre.
On se rend compte que ça reste toujours quand même difficile de bouger des institutions comme l'Église catholique. Hein. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, le film ne serait peut-être pas sorti tout de suite.
les premiers spectateurs amiénois de Grâce à Dieu, le film de François Ozon.
Un peu de sport à présent, le Tour de France 2021 partira de Copenhague au Danemark.
C'est ça, et ce sera la 24e fois que le peloton s'élance de l'étranger. Dans la foulée, trois étapes se courront même au Danemark, dont un contre-la-montre à Copenhague.
Et on termine votre journal, Frédéric Dorel, avec de la musique. Zazie va se produire trois soirs à Paris avant de partir en tournée au mois de mai.
Oui, ça sera fin mai, c'est ça. Même. Et alors, les concerts à Paris, c'est 18, 19 et 20 mars, dans trois salles parisiennes différentes, un spectacle qui s'appellera Zazie Essentielle, les préliminaires. Le dernier single de Zazie, issu de son dernier album Essentiel, et qui sera évidemment au cœur de la tournée qu'elle inaugurera à Paris, donc fin mars.
Merci beaucoup Frédéric Dorel pour toutes ces informations informatives. Mathieu Kassovitz est avec vous jusqu'à 20h pour le Chant du Loup. On le retrouve après la météo.